Je devais avoir 8 ou 10 ans quand j'ai demandé à mon père pourquoi le porte-clés de sa voiture était une figurine représentant Saint-Christophe. « Pour me protéger des accidents », m'a-t-il répondu. Je me souviens encore avoir examiné ce petit bonhomme en me demandant comment il pouvait contrôler la circulation automobile. Alors je me suis dit, je ne suis qu'un enfant et il y a encore beaucoup de choses que j'ignore, mais quand je serai grand, j'aurai des réponses. Eh bien aujourd'hui, je sais que les gens qui ont besoin d'avoir sur eux un objet porte-bonheur sont superstitieux et crédules. Ils croient n'importe quoi parce qu'ils sont incrédules à l'égard du Dieu unique et vrai qui s'est révélé en Jésus-Christ. Je continue à lire dans le second chapitre du livre d'Habacuc. À quoi sert une idole sculptée par l'artisan ? Ou une statue de métal fondu qui n'est qu'un enseignant mensonger, car celui qui l'a faite se confie en son œuvre pour fabriquer une idole muette. Verset 18. Nous arrivons à la dernière strophe de l'hymne funèbre prononcé sur Babylone. Cette cinquième accusation dirigée contre les Chaldéens concerne l'idolâtrie et dénonce la folie d'adorer des faux dieux. Contrairement aux quatre strophes précédentes, celle-ci ne commence pas par une imprécation, mais par une question fondamentale. À quoi sert une idole sculptée par l'artisan ? À quoi sert l'habileté de l'artiste et le soin qu'il a mis à confectionner cette œuvre ? À ce sujet, le prophète Ésaïe écrit « Mais vous, les idoles, vous êtes moins que rien, et toutes vos actions sont moins que du néant. » Celui qui vous choisit se rend abominable. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que néants, et leurs plus belles œuvres ne sont d'aucun profit. Leurs témoins ne voient rien et ne savent rien. Et au sujet des Israélites du royaume de Juda, le prophète Jérémie écrit « Existe-t-il un peuple qui ait changé de Dieu ? Et pourtant ces dieux-là ne sont pas de vrais dieux. Pourtant mon peuple a échangé celui qui fait sa gloire » contre ce qui ne sert à rien. Quand Babylone sera mise à feu et à sac, ses prétendues divinités seront détruites en même temps qu'elle. Dans les temps antiques, une idole était une statue, une sculpture taillée dans du bois ou de la pierre, ou bien une moulure coulée dans un métal quelconque, ou encore une structure plaquée d'une feuille d'or ou d'argent. Je lis un passage. Une idole moulée, un artisan la fond, l'orfèvre la recouvre d'un fin plaquage d'or, et pour l'orner, il coule des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas, puis il s'en va chercher un artisan habile pour faire une statue qui ne vacille pas. Aujourd'hui, dans beaucoup de religions, on fabrique des idoles en plâtre ou en plastique. Elles sont modelées puis peintes. Ensuite, les fidèles viennent prier cette figure et lui apportent leur sacrifice sous forme de petits animaux ou d'aliments divers, car il ne faudrait surtout pas que l'idole meure de faim. Habacuc appelle l'idole un enseignant mensonger parce qu'elle prétend être un dieu et encourage les hommes à l'adorer alors qu'elle n'est que pure illusion, un mythe, tout aussi réel que le Père Noël. Bien sûr, le bout de bois, de métal, de plâtre ou de plastique qui a été transformé en statue n'y est pour rien dans cette affaire. Ce sont ceux qui font croire aux masses que l'idole en question est un dieu qui sont des farceurs ou plutôt des trompeurs et qui vivent au crochet de ceux qui les écoutent. L'expression « enseignant mensonger » est traduite par « fantaisie fausse » dans l'ancienne version grecque et par « imagination fausse » dans la version latine de la Vulgate, mais c'est la même idée. Le psalmiste écrit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, mais leurs idoles d'argent et d'or sont faites par des hommes. Elles ont une bouche mais ne peuvent parler, elles ont bien des yeux mais elles ne voient pas, elles ont des oreilles mais qui n'entendent rien, elles ont des narines mais qui ne sentent rien. » Elles ont bien des mains, mais ne peuvent toucher. Elles ont bien des pieds, mais ne peuvent marcher. De leur gorge, jamais aucun son ne s'échappe. Ils leur ressembleront, tous ceux qui les fabriquent, et tous ceux qui leur font confiance. Comme le psalmiste, Habacuc se moque de l'artisan qui, bien qu'il soit le créateur de son œuvre, croit que ce qu'il a fabriqué est doté d'une puissance que lui-même n'a pas. Une telle croyance est pure folie, car c'est comme si les rôles étaient inversés et que l'ouvrage réalisé par le potier dise à celui qui l'a fait « Je te suis supérieur ». Mais comme je l'ai déjà dit, les incrédules et les libres penseurs sont très crédules et tombent toujours dans l'absurde. L'apôtre Paul parle de l'idolâtrie dans ses épîtres. Il écrit aux Corinthiens « Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. Est-ce qu'une viande, parce qu'elle est sacrifiée à une idole, prend une valeur particulière? Ou que l'idole ait quelque réalité? Certainement pas. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. Si une idole n'est rien, cela ne veut pas dire qu'elle est inoffensive, car derrière elle peut se cacher un mauvais esprit. Se mettre à genoux devant une statue n'est pas un geste anodin, car il peut être dangereux. On me dira peut-être, moi, je ne me mets pas à plat ventre devant quoi que ce soit et je ne suis donc pas un idolâtre. Pas si vite. D'innombrables êtres humains sont en adoration devant des choses comme l'argent, que Jésus appelle « mammon », ou bien sont accrochés au sexe, à l'alcool ou à un autre travers. Des femmes donnent leur vertu pour réaliser leurs rêves professionnels, pour gravir les échelons plus vite. Tout ce qui me tient, qui me consume, qui prend mon temps et mon énergie parce que je m'y donne corps et âme, est mon Dieu et mon idole. Or, l'Éternel dit qu'il est jaloux, une expression qui est utilisée au moins 7 fois dans l'Ancien Testament. 7, le chiffre de la perfection. Je continue la 5e strophe de l'hymne funéraire destiné à Babylone. Oui, malheur à qui dit à un morceau de bois, réveille-toi, à la pierre muette, allons, sors du sommeil. Peuvent-ils enseigner? Voici, ils sont plaqués d'or et d'argent, mais il n'y a en eux aucun souffle de vie. Verset 19. Alors que dans les 4 strophes précédentes, l'imprécation « malheur » se trouvait au tout début, ici elle apparaît au 2nd verset. Habacuc ne l'a pas oublié. Il profère une malédiction contre ceux qui fabriquent ou vénèrent les idoles. Ésaïe développe en détail la même idée qu'Habacuc. Je lis le passage. « Et voici le sculpteur. Il a tendu sa corde, trace l'œuvre à la craie, puis avec le ciseau il l'exécute et il la dessine au compas. Il la façonne ainsi, d'après la forme humaine et à la ressemblance d'un homme magnifique, pour qu'elle habite un temple. » Il a coupé des cèdres, ou bien il s'est choisi du cyprès ou du chêne qu'il a laissé devenir bien robuste parmi les arbres des forêts, ou bien il prend un pin qu'il a planté lui-même, que la pluie a fait croître. Or, l'homme se sert de ses bois pour les brûler, il en prend une part pour se chauffer, il allume le feu pour y cuire son pain, avec le même bois il fait un dieu et il l'adore, il fabrique une idole et se prosterne devant elle, la moitié de ce bois il l'a livré au feu. Grâce à cette moitié, il mange de la viande, il fait cuire un rôti et il s'en rassasie. Il prend aussi une part de ce bois pour se chauffer et dit qu'il fait bon avoir chaud et voir la belle flamme. Quant au reste du bois, il en fait une idole. Il la prend pour son dieu, il se prosterne devant elle et il l'adore. Il l'invoque et lui dit « Délivre-moi, car toi, tu es mon dieu. » Ils sont sans connaissance, ils ne comprennent rien. Ils n'ont pas d'intelligence, on a bouché leurs yeux afin qu'ils ne voient pas, on a fermé leur cœur afin qu'ils ne saisissent pas, aucun ne réfléchit, aucun n'a de savoir ni assez de raison pour se dire en lui-même « J'ai brûlé la moitié de mon bois dans le feu, j'ai aussi cuit du pain sur les braises du bois, j'ai rôti de la viande dont je me suis nourri, et de ce qui restait j'ai fait une abomination ». Je me suis prosterné devant un bout de bois. Il se repaît de cendres. car son cœur abusé l'a mené dans l'erreur. Il ne sauvera pas sa vie et ne dira jamais « Ce que je tiens en main, n'est-ce pas une tromperie ?» Ces paroles d'Ésaïe montrent que la stupidité humaine est vraiment un puits sans fond. Il est tout à fait légitime de s'adresser à l'Éternel et de lui ouvrir son cœur comme le fait le psalmiste ou le prophète qui dit « Interviens donc, oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Interviens donc, Seigneur, ne reste pas sans réagir, sors du sommeil, ne nous rejette pas toujours. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de puissance, ô bras de l'Éternel, entre en action comme au jour d'autrefois, comme au siècle passé. » Par contre, tenir un tel langage envers un objet inanimé est une hérésie et même un crime contre le seul vrai Dieu. C'est pourtant bien ce qu'ont fait les prophètes du faux Dieu Baal que le prophète de l'Éternel Élie a confronté et dont il s'est moqué. Je lis ce passage. « On leur donna le taureau et ils le prirent et le préparèrent. » Puis ils invoquèrent Baal du matin jusqu'à midi en répétant « Ô Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient autour de l'autel qu'ils avaient dressé. Vers midi, Élie se moqua d'eux et leur dit « Criez plus fort, puisqu'il est Dieu, il doit être plongé dans ses réflexions, ou il a dû s'absenter, ou bien il est en voyage. » Ou peut-être dort-il et faut-il le réveiller ? Les prophètes crièrent à tue-tête et se firent, selon leur coutume, des incisions dans la peau à coups d'épée et de lance, jusqu'à ce que le sang ruisselle sur leur corps. L'heure de midi était passée et ils demeurèrent encore dans un état d'exaltation jusqu'au moment de l'offrande du soir. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, ni aucune réaction. » Fin de citation. Je finis maintenant la cinquième et dernière strophe de l'hymne funéraire contre Babylone qui clôt le second chapitre du livre d'Habacuc. « L'Éternel, lui, se tient dans son saint temple, que le monde entier fasse silence devant lui. » Verset 20. Habacuc établit un contraste entre d'un côté les idoles muettes et sans vie, et de l'autre, l'Éternel, le Dieu vivant et vrai, qui est assis dans son saint temple. Il ne s'agit pas du sanctuaire terrestre situé à Jérusalem, mais du troisième ciel, le trône de la majesté divine. Plusieurs personnages de l'Ancien Testament ont reçu une vision semblable à celle d'Habacuc. David écrit « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône au ciel. De ses yeux il observe, il sonde les humains. » Et le prophète Ésaïe dit « Voici ce que dit l'Éternel, mon trône, c'est le ciel, la terre, l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez? Et quel est le lieu de repos? Et quel lieu de repos pourrait me servir de demeure ?» C'est de son sanctuaire céleste que Dieu prend la décision de juger les impies. Et, à la fin des temps, c'est des cieux qu'il descendra pour venir manifester sa gloire sur la terre et punir le monde en détruisant les puissances terrestres qui s'opposent à lui. À cause de cela, tous les habitants de la terre doivent se comporter comme des sujets dans la présence de leur roi et se soumettre à lui avec crainte et tremblement. Ils doivent garder le silence de la soumission et de l'adoration, tandis que Dieu juge non seulement le royaume de Juda et Babylone, mais aussi tous les royaumes de la terre. Le psalmiste écrit « Que Dieu est redoutable, qui tiendrait devant toi quand ta colère éclate ? Qui tiendrait devant toi quand ta colère éclate ? Du ciel tu fais entendre quel sera ton verdict ? Et la terre, effrayée, se tient dans le silence quand toi, ô Dieu, tu interviens pour prononcer le jugement et pour apporter le salut à tous les humbles de la terre. Il y a un temps pour tout. S'il est des circonstances où je peux crier à Dieu et dire « Interviens donc, Seigneur, ne reste pas sans réagir, sors du sommeil, ne nous rejette pas toujours, réveille-toi, réveille-toi. » Il y a aussi des moments où je dois faire silence devant lui, m'humilier et l'adorer. Il faut garder à l'esprit que le recueil de 5 malheurs rassemblés sous la forme d'un hymne funéraire contre Babylone est une réponse de l'Éternel à son prophète perplexe. Quand Habacuc rédige sa prophétie, les Chaldéens qui habitaient la Babylonie étaient encore sous le joug des Assyriens. Mais bientôt, ils allaient prendre le pouvoir, détruire Ninive, capitale de l'Assyrie, puis imposer un règne de violence partout où ils allaient aller. Cependant, leur domination ne continuera pas indéfiniment car ils disparaîtront de la scène politique et militaire du Moyen-Orient aussi vite qu'ils étaient montés en puissance. Les 3 premières strophes de l'hymne funéraire dénoncent le pillage à grande échelle des richesses des autres nations, leurs actes de violence et d'oppression. La 4e condamne le traitement dégradant infligé aux vaincus, ainsi que la destruction de la forêt du Liban et de sa faune. La 5e dénonce l'idolâtrie dont les Chaldéens se rendent coupables. Leur châtiment est annoncé plusieurs fois en des termes équivalents à leurs actes impies. Œil pour œil, dent pour dent. Leurs crimes retomberont sur eux selon la loi du talion. Ils subiront les mêmes maux qu'ils ont fait subir aux autres. Alors qu'ils contemplent la ruine de l'empire babylonien, Habacuc est conduit à porter le regard vers le dénouement final de l'histoire. L'Éternel, qui est le maître du monde, va se servir de Babylone pour punir son peuple. Mais ensuite, il fera venir Cyrus le Perse pour la juger et la faire disparaître. Mais ce châtiment n'est qu'un prélude et la répétition générale de ce qui arrivera à la fin des temps quand la Babylone reconstituée sera elle aussi mise à nu et détruite. Quand l'Éternel descendra du ciel pour juger le monde en la personne du Messie, il sera enfin reconnu comme le Dieu unique et véritable par tous les habitants de la terre qui n'auront pas d'autre choix que de faire silence devant lui. Imaginez un silence absolu à couper au couteau. Ce silence a une dimension sinistre. Dans un studio d'enregistrement sophistiqué, on n'entend absolument rien sinon le bruit des battements de son cœur. C'est très angoissant. Si dans la jungle, la cacophonie habituelle cesse tout d'un coup, c'est que les animaux ont repéré un prédateur aux aguets. L'un d'entre eux va mourir. Quand Dieu apparaîtra pour juger le monde, il y aura un grand silence de stupéfaction et de terreur. « Il est terrible, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, de tomber entre les mains du Dieu vivant. Cependant, écrit l'apôtre Paul, lorsqu'il viendra, il sera honoré par tous ceux qui lui appartiennent et admiré par tous les croyants. Nous arrivons au chapitre 3 du livre. Il a pour titre « Une prière d'Habacuc, le prophète, sur le mode lyrique ». Ayant appris comment Dieu va faire éclater sa justice, d'abord en jugeant Juda, puis Babylone, devant la souveraineté absolue de l'Éternel, Habacuc adopte une attitude pieuse d'adoration. Bien qu'à proprement parler, seul le verset 2 du 3e chapitre est une prière et une requête, tout ce qui suit est appelé prière parce que cette composition est très proche de la poésie des psaumes qui étaient des prières destinées à être chantées. D'ailleurs, plusieurs psaumes portent le titre de prière, prière de David ou prière de Moïse, par exemple. Comme Habacuc expose toute son âme devant l'Éternel et que toute sa pensée est occupée à contempler ce qui doit arriver dans l'avenir, Ce troisième chapitre mérite bien le nom de prière. Du reste, Habacuc est un prophète. Les effusions de son cœur ne sont pas seulement les élans privés d'une âme qui prie, mais une prophétie inspirée de Dieu qui nous projette jusque dans le lointain à venir. La prière d'Habacuc est dite sur le mode lyrique. Le terme hébreu désigne un haut degré d'exaltation avec des changements émotionnels abrupts qui servent à exprimer la passion, le triomphe ou la louange. Cette indication musicale signifie que la prière est destinée à être chantée sur un ton rapide et animé. Ce style de musique a été redécouvert il n'y a pas très longtemps et a donné des chants modernes, comme ceux par exemple qu'on trouve dans les carnets « J'aime l'Éternel », qui sont utilisés dans beaucoup d'églises de France et qui sont tout à fait appropriés pour louer le Seigneur de toute la terre.